106.9 Morrissey, commentaire. Que la Morrissey se lève. Voici Maître François Vigean.
Salut François.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, très bien.
On va débaptiser l'aéroport.
Oui, Pierre-Éliott Trudeau.
Trudeau a causé des préjudices aux Québécois. Ouais. Ça là, c'est tellement dénaturé l'histoire. Toute cette espèce d'invention-là que Trudeau haïssait les Québécois puis méprisait les Québécois, ça, là, c'est l'histoire revisitée.
OK.
Premièrement...
Donc, t'es pas d'accord, là, de ce que je comprends.
Non, c'est une pure invention. Je veux dire...
Ah oui?
Trudeau était... Il haïssait profondément le concept du fédéralisme asymétrique. Ça, qu'est-ce mm-hmm. que ça veut dire?
C'est quoi,
que Trudeau, mm-hmm. il se disait... C'est impossible d'avoir une fédération canadienne s'il y a des provinces qui ont plus de pouvoir que d'autres par rapport à la langue, à la culture, etc. La seule façon dont ça peut fonctionner, c'est si les provinces ont les mêmes pouvoirs. Ça, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'était la pensée fondamentale de Trudeau. Trudeau, c'est pour ça d'ailleurs qu'il haïssait René Lévesque, qui était un indépendantiste, pas mm-hmm. parce que c'était René Lévesque. Il méprisait en général les indépendantistes, mais il méprisait aussi Robert Bourassa, qui est un libéral, parce qu'il, dans
oui,
sa tête...
Il méprisait pas mal de monde, finalement.
Ben, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une raison qui n'était pas nécessairement personnelle. Bourassa, il méprisait parce qu'il trouvait que c'était un faible, qu'il okay. n'était pas capable de contrôler les groupes que lui considérait comme des extrémistes. Il n'avait pas tort complètement en 1970, en passant. Alors, pour comprendre Trudeau, faut comprendre c'était quoi sa pensée politique.
Okay.
Faut arrêter toujours de se dire « le voisin m'haït parce que j'ai les cheveux blonds ». Non, le voisin t'haït parce que tu fais le gazon à 7 heures le samedi. C'est pas la même chose, ça. Alors,
okay.
Trudeau avait une pensée politique qui... était très centralisatrice. C'est ce qui a fait, d'ailleurs, qu'il était contre Meach, puis qu'il a fait tout ce qu'il mm-hmm. peut pour que ça marche, que Meach marche pas. C'était pas pour s'en prendre aux Québécois. C'était parce que cette vision décentralisée de Mulroney, il ne la partageait pas, puis il trouvait que c'était extrêmement dangereux. Que c'était okay. dangereux, par exemple, pour les minorités. Faut se rappeler que Trudeau était un des plus grands défenseurs de l'histoire en matière de minorités. Et okay, je parle pas juste des minorités linguistiques, en
mais
passant.
Une fois qu'on aura placé le contexte politique et la pensée de Pierre-Éliott Trudeau, avec ce qu'on a appris la semaine dernière concernant le fait que Pierre-Éliott Trudeau avait voulu un peu comploter avec Paul Desmarais pour déstabiliser l'économie du Québec, là. Avec l'ascension au pouvoir de René Lévesque, ça, est-ce que pour toi, ça vient en ajouter? Est-ce que tu trouves ça dérangeant? Parce que c'est ce que ceux qui disent qu'on devrait enlever son nom de là, on part de ça, entre autres. Là. C'est ces faits-là qui sont venus ajouter aux arguments, notamment de la Société Saint-Jean-Baptiste. Tu penses quoi?
Premièrement, on connaît pas tout le contexte de ce geste-là, mais une chose est sûre, la politique dans les années 70 se faisait pas comme maintenant. Et Trudeau était quelqu'un de très polarisant. Alors, cette lettre-là, sorti de son contexte, comme c'est souvent le cas, a peut-être des explications que moi je connais pas. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui vient redorer son blason.
Non,
c'est clair.
Mais
on savait déjà qu'il y avait un mépris profond et qu'il voulait, qu'il était déterminé à ce que le Parti québécois puisse pas être réélu. Ça, c'était quelque chose. Mais il faut aussi se replacer dans le contexte de 76. Moi, je me rappelle les gens qui faisaient leur valise pour aller à Toronto parce qu'ils pensaient que c'était la fin du monde, l'élection du Parti québécois en novembre 1976, là.
Ouais.
Bourassa battu dans Mercier, les libéraux qui avaient 103 sièges, c'était la fin du monde. Il y a beaucoup de personnes, surtout parmi certaines qui étaient plus âgées, avaient une crainte. Écoutez, les gens envoyaient leur argent à Banque Royale. C'était pas ouais. des blagues, là.
OK. Mais tu trouves pas ça quand...
Alors, on peut ne pas être d'accord avec ce qui est écrit, okay. sans penser... nécessairement qu'il en voulait personnellement aux Québécois,
ben,
ce qui pour moi est absurde.
Okay, même en sachant que, comme je te dis, oui, est-ce qu'il nous manque des éléments peut-être, là, puis le contexte de l'époque est différent, mais même en apprenant qu'il aurait demandé à Paul Desmarais de transférer des opérations d'investissement ailleurs pour punir puis affaiblir économiquement le Québec, tu trouves pas
ouais,
ça
mais là, c'est parce
agaçant?
Évidemment que c'est agaçant, je te l'ai dit tantôt, oui, ça ouais. me... ça me rend perplexe, c'est clair. Et c'est des méthodes qui seraient plus tolérables maintenant. Maintenant, on n'a pas le complexe complet des discussions qui ont eu entre Desmarais et lui, que les entreprises ont parlé. Ce qu'on peut en déduire, c'est que effectivement, il était prêt à prendre des mesures qui étaient inacceptables, surtout par les standards d'aujourd'hui, pour y arriver. Ça, je partage ça avec toi.
Okay.
Mais je fais juste dire que ce n'était pas la haine des Québécois en général qui provoquait ça. C'est ça que je veux dire. Après ça, qu'on discute des moyens qu'il a pris, l'alerte qu'il a envoyée, les mesures de guerre, mais ça, c'est une autre chose.
Okay? Ouais.
Mais il était profondément convaincu que c'était mauvais pour les Québécois, que l'indépendance du Québec était une chose très dangereuse, mais aussi que le rapatriement des pouvoirs était quelque chose qui était très dommageable à long terme au Québec et pour le Canada. Et c'est ça qui le drivait. Alors, ce n'était pas une haine des Québécois. Après ça, comme tu dis, la méthode, on peut en discuter en masse.
Ouais.
Et c'était quelqu'un qui avait des traits de personnalité extrêmement particuliers. Puis c'était un têtu total. Là. Il y avait, il y avait certaines qualités. Jarislowski, l'homme d'affaires, le milliardaire de Montréal, qui un roi de la finance, qui est un de ses meilleurs amis, raconte quelque chose de très drôle dans sa biographie. Hein. Il dit qu'à tous les deux semaines, il allait dîner avec Trudeau dans un restaurant chinois qui s'appelait le Piment Rouge, là, sur Peel. Okay. Et il dit, il était tellement radin, tellement pingre, que pas une fois en 30 ans, il a ramassé la facture du lunch. Et à un moment donné, Jarislowski raconte dans sa biographie, il dit, une fois, j'en ai eu assez. J'ai dit, Trudeau, là, toi, tu te payes à midi, c'est clair. Fait que, il arrive au restaurant, puis là, on parle de milliardaire pour une facture de 43$, OK?
Oui,
et là, il arrive au restaurant, il dit pas un mot, la facture arrive à 1h15, il bronche pas, il la ramasse pas. Il regarde Trudeau, puis il fait signe, la facture, etc. Trudeau ne l'a pas ramassé. Dans sa biographie, Jarislowski raconte qu'à 3h15, il a abandonné. OK, que Trudeau l'a laissé là pendant 2 heures à niaiser pour sauver 43$.
Bon. Il était radin à ce point-là.
C'était ce genre de personne extrême-là, qui était très polarisante et qui se comprend plus mal maintenant. Je voulais me garder une minute avant de sortir pour attirer l'attention des gens sur la chronique magnifique de Paul Vermeau-Desroches. Tu l'as lu probablement dans le Nouvelliste sur l'île Saint-Quentin.
Oui.
Parce que je trouve que c'est un sujet riche et je trouve que sa chronique présente bien les deux côtés, les avantages et les désavantages que ça peut avoir. Puis je vais te dire, là, je lisais ça, puis j'ai eu bien du fun à vous écouter un matin avec Ralph à parler du même sujet avec Claude. Il y a vraiment des bons arguments des deux côtés.
Oui.
Honnêtement, là, c'est pas clair comme ça.
Mais non, j'ai hâte de voir. Ça va être une décision qui va appartenir au conseil de ville puis au maire lors des prochaines élections. Mais il va falloir en effet débattre de ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes les arguments des deux bords, tu fais « bon, on fait quoi? »
Mais j'avoue que l'été, je peux pas voir comment ça pourrait être gratuit. Là l'été,
Pourquoi tu dis ça?
Là, tu vas te ramasser avec une quantité de monde. Est-ce que ça va tous être des gens qui vont être suffisamment disciplinés pour bien traiter l'île?
Ah, je suis pas sûr, parce que c'est déjà problématique. C'est déjà un problème l'été,
alors,
parce qu'il y a beaucoup de monde.
Le paiement assure une certaine forme de contrôle. Regarde ton auditeur ce matin, qui s'occupait du ménage là-bas, qui disait quelque chose là-dessus, qui disait vous risquez de vous ramasser avec des gens que vous voulez pas nécessairement.
Exact.
Qui vont pas prendre soin de la place. Ben, l'hiver, c'est tellement magnifique. Moi, j'ai la chance d'avoir la vue directement sur l'île où est-ce que je demeure. C'est vraiment un endroit magnifique. Il y a des oiseaux magnifiques, c'est une place. Alors moi, j'aurais une solution peut-être à moitié.
Vas-y. Hein?
L'hiver, ça serait gratuit, puis l'été, il faudrait que ça soit tarifé.
C'est pas fou, François, c'est pas fou. Parce que, tu sais, je lisais les commentaires de François Bellil, le conseiller, il disait, à chaque fois que je pose la question sur les réseaux sociaux, les gens vont vers la gratuité. Ben oui, OK. Tu sais, dans la vie, François, tu peux toujours tu veux-tu ça gratuit? C'est sûr, si tu me poses ça, ben
Catherine,
oui, je veux ça gratuit.
Si tu veux être populaire, demande à tes auditeurs s'ils veulent la tarte aux pommes gratis, OK?
Salut. Oui, allez, François, à demain, bye-bye. François Vigeant, du lundi au jeudi, 7h35.